Il est 7h49. Léa Salamé, votre invitée ce matin, est directeur général de la Gendarmerie nationale.
Bonjour général Richard Lizuret, merci d'être avec nous ce matin. Vous rentrez de Carcassonne où vous avez partagé la tristesse de vos hommes après la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Quels sentiments vous ont traversé devant ce geste héroïque ?
D'abord un sentiment de tristesse de la perte de notre camarade. Un sentiment de compassion à l'égard évidemment de sa famille et de l'ensemble des victimes de cet attentat, puisque un certain nombre d'autres victimes ont été dénombrées. Ensuite, un sentiment aussi de fierté, de l'engagement, l'acte de bravoure, d'héroïsme de notre camarade. Sentiment de fierté qui anime tous les gendarmes aujourd'hui. Et un sentiment de solidarité aussi, et bien sûr avec sa famille, mais une solidarité avec l'ensemble de la société face à cette menace terroriste qui nous guette tous les jours.
Il est rarissime ce geste, je veux dire dans l'histoire récente de la gendarmerie. Il y a eu d'autres gendarmes qui ont ainsi donné leur vie pour sauver un otage.
De mémoire de gendarmes, c'est la première fois que ce type d'acte a lieu. En revanche, tous les jours, des gendarmes, des policiers patrouillent, prennent des risques, sont tués, sont blessés. Nous avons aujourd'hui, chaque jour, 20 gendarmes qui sont blessés à l'occasion d'opérations. Et je pense à eux parce qu'au quotidien, effectivement, cette mission, ce métier de la sécurité des Français, ce métier de la protection des populations, est un métier éminemment dangereux, mais c'est aussi un métier humain. Parce qu'il vise à protéger les autres.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est écrit dans votre protocole, c'est écrit dans le règlement de la gendarmerie. Ce qu'il a fait, il a appliqué une règle écrite ou il a eu un geste instinctif ?
Dans notre métier, il y a deux choses. Il y a les directives, il y a les standards, il y a les procédures qui sont faites pour effectivement encadrer les événements. Et ensuite, il y a l'initiative individuelle qui est souvent à la manœuvre, quasiment toujours. Le gendarme, lorsqu'il est sur le terrain, il a quelques secondes pour réagir, quelques secondes pour analyser une situation, quelques secondes pour prendre la bonne décision. La décision qu'a prise Arnaud Beltrame est une décision individuelle qu'il a estimé devoir prendre parce qu'à un moment donné, il souhaitait, je pense, sauver la vie de l'otage, ce qu'il a fait.
Ouais. Donc c'est pas écrit dans le protocole. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui est écrit. Quand vous êtes face à ce genre de situation, vous échangez votre
vie. Dans le métier que nous faisons, il n'est pas possible d'écrire tout. Ouais. Il est possible de donner un certain nombre d'orientations, un certain nombre de directives, mais c'est l'intelligence de situation, c'est l'intelligence locale, c'est l'engagement de l'individu qui finalement, au bout du bout, fait le reste et fait la différence.
Et justement, qu'est-ce qu'il avait de particulier et en quoi le parcours de ce gendarme, le fait qu'il ait été ancien militaire, qu'il ait servi en Irak notamment, en quoi cette expérience-là a été déterminante dans son geste ?
D'abord, vous avez raison de souligner, c'est un... Après 23 ans de service, c'était un officier brillant. Il a été brillant tout au long de sa carrière. Il a terminé major de promotion à l'école militaire interarmes. Il a terminé major de promotion à l'école d'application des officiers de la gendarmerie nationale. Et il a, dans toutes ses affectations, suscité un engouement. Il a eu un charisme exceptionnel qui a été d'ailleurs... relaté hier par ses subordonnés que j'ai rencontrés.
Oui, c'est ce que vous nous disiez avant de rentrer en studio, c'est de la ferveur de ceux qui travaillaient avec lui vous a marqué.
Absolument, cette ferveur c'était aussi son engagement total, il ne comptait pas, il était vraiment au service de la nation, au service du public, au service de la protection des populations.
C'est ce que vous appelez un héros ?
C'est ce que j'appelle un héros parce que, effectivement, l'acte qu'il a effectué est un acte exceptionnel. Nul ne sait ce que nous ferions dans ces cas-là. Lui l'a fait et je crois qu'il faut effectivement le respecter.
Général Richard Lizuret, est-ce que vous redoutiez dans les derniers jours, dans ces dernières semaines, un acte terroriste comme celui-là ?
La menace terroriste est omniprésente. Le président de la République l'a rappelé, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. C'est un état aujourd'hui de fait, nous avons les services ont démantelé un certain nombre de projets, 22 projets donc depuis quelque temps. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous préparons à tout type d'acte terroriste, y compris celui-là. Et c'est vrai que c'était dans les hypothèses de travail quelque chose qui était possible.
Qu'est-ce qui a changé depuis 2015 et le Bataclan ? Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un avant et un après 2015 dans le mode d'intervention des forces de sécurité face à des attaques terroristes ?
Oui, il y a eu un avant et un après. Aujourd'hui, nous avons un dispositif qui est réparti sur l'ensemble du territoire où l'ensemble des gendarmes et des policiers de terrain qui sont, dans le cadre de la sécurité publique, de la mission quotidienne, susceptibles de rencontrer un terroriste. Et nous avons donc durci, équipé ces personnels de manière à ce que, en première intention, lorsqu'ils arrivent sur un incident, ils puissent à la fois se défendre et réagir.
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, jusqu'au Bataclan, en gros, c'était les forces d'élite, c'était le RAID ou le GIGN qui étaient autorisés à intervenir, pas le gendarme.
Tout à fait. Jusque-là, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait des procédures qui faisaient que Les primo-engagés gelaient la situation, appelaient les renforts, attendaient les renforts et les renforts intervenaient. Le Bataclan a changé complètement ce mode de fonctionnement et aujourd'hui, les primo-engagés, c'est-à-dire le gendarme ou le policier de terrain, sont face aux terroristes et doivent réagir.
Ce qui s'est passé clairement ce week-end.
Ce qui s'est passé exactement
puisque
ce week-end.
Puisque en moins de 20 minutes, il y avait quelqu'un sur place.
Tout à fait. Donc l'alerte a été donnée rapidement et je dois saluer la réactivité exceptionnelle des militaires de la gendarmerie qui sont intervenus. Nous avons déclenché dans la foulée également le schéma national d'intervention. Nous avons appelé nos collègues de la police nationale qui sont également déployés sur l'ensemble du dispositif. Et cette réactivité mérite d'être soulignée parce qu'elle a permis, à mon avis, de diminuer le nombre de décès et le nombre de victimes.
Vous avez aujourd'hui des gendarmes qui sont formés pour repérer les personnes radicalisées, pour détecter ce qu'on appelle les signaux faibles.
Tout à fait, c'est bien le rôle de l'ensemble des brigades territoriales. Nous avons 3100 brigades territoriales qui, au quotidien, font leur travail, vont au contact de la population. Ce contact et cette proximité sont essentiels, d'abord pour notre mission quotidienne, mais ils sont également essentiels pour percevoir tous ces signaux faibles. Et ces signaux faibles, ensuite, sont analysés, sont regroupés et nous permettent... la majorité du temps, effectivement, de détecter des signes de radicalisation.
Je sais que vous ne commenterez pas l'enquête ce matin, puisque c'est le procureur Molins qui parle. Est-ce que vous voyez des failles du renseignement ?
Là, je n'ai pas d'avis pertinent ni autorisé. Comme vous l'avez fort bien dit, l'enquête est en cours et je pense qu'il faut attendre les résultats des investigations.
Le procureur Molins a dit que Redouane Lakhdim avait eu un suivi effectif en 2016 et en 2017. Il était fiché S, on le rappelle. Comment vous faites pour suivre ce genre de cas pour qu'il n'y ait pas de passage à l'acte ? Il y en a beaucoup des fichés S, il y en a 20 000 aujourd'hui. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour les suivre au jour le jour ? On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque fiché S. Quel est le problème aujourd'hui ? Problème de moyens ?
Non, ce n'est pas un problème de moyens. Nous avons des moyens. Nous avons, pour suivre des personnes, des moyens techniques, des moyens humains. Il y a des analyses qui sont faites au niveau départemental, dans le cadre des groupes d'évaluation départementaux pilotés par les préfets, où les services échangent sur la situation des uns et des autres.
Comment il a pu faire ça alors qu'il était fiché S et qu'il était suivi ?
Il était suivi, mais à un moment donné, vous avez un passage à l'acte qui, là aussi, répond parfois à des convictions personnelles. Dès lors que, comme vous l'avez fort bien dit, on ne peut pas suivre tout le monde tout le temps, le passage à l'acte, il est impossible à détecter.
Un ancien candidat de la France Insoumise aux législatives est en garde à vue pour apologie au terrorisme. Il s'est réjoui ce week-end sur Twitter de la mort du lieutenant-colonel. Je précise que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont condamné fermement ses propos et vont porter plainte contre lui aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu ce tweet ?
Manifestement, nous ne partageons pas les mêmes valeurs avec cet individu, qui doit quand même se rappeler que le jour où il aura besoin de nous, on sera là, malgré tout.
Vous avez reçu cependant des milliers de messages de soutien, je crois.
Oui, des milliers, à la fois dans notre pays, de nos concitoyens, mais aussi de l'étranger. C'est rassurant parce que ça montre aussi que notre société est capable, à la faveur d'un acte de ce type, de reprendre le dessus, de montrer sa détermination. Et il est important que notre société se cimente et se solidarise face à cette menace terroriste.
Merci, Général Richard Lizurey. Merci d'avoir été avec nous sur France Inter ce matin.
Merci à vous.
Merci.
Merci Léa.